Chapitre 25. 10 inventions majeures. Dans ce chapitre, techniques et technologies libératrices, du feu, de la vapeur et beaucoup de matière grise. Les grandes découvertes résultent souvent du fruit du hasard, le feu par exemple, ou reprennent à leur compte d'anciens procédés qui sont développés comme l'imprimerie. Elles surviennent dans un climat économique et social propice. Toutes, aussi insignifiantes puissent-elles sembler, elles contribuent à enrichir l'humanité et à influencer notre vie quotidienne. La maîtrise du feu. La maîtrise du feu est sans doute l'une des plus grandes innovations technologiques de l'histoire humaine. Elle modifie le rythme du temps en permettant de prolonger la journée. Elle offre davantage de sécurité dans un environnement hostile et rend aisée la cuisson des aliments. Ses conséquences sur la vie sociale, le fait de rassembler un clan autour de lui, ne sont pas des moindres. Comment savons-nous que le feu était volontairement utilisé? Par la présence de foyers. Les plus anciens en Europe ont été retrouvés à Terra Amata, près de Nice, et datés de moins 450 000 ans. Mais il reste exceptionnel, car le feu n'est attesté de façon plus courante que vers moins 40 000 ans. Une autre preuve d'utilisation du feu réside dans la découverte de silex chauffé, opération qui permet d'en faciliter la taille. Deux techniques permettent de faire naître du feu. À l'origine, les hommes le recueillent probablement quand la foudre frappe, enflamme arbres, buissons ou herbes sèches, mais ils ne savent guère l'entretenir et le conserver, encore moins le reproduire. Puis, il y a environ moins 40 000 ans, ils parviennent à s'en rendre maîtres en recourant au premier briquet agissant de deux manières, par percussion ou par friction. Pour la percussion, deux pierres sont frappées l'une contre l'autre afin de produire des étincelles embrasant herbes ou feuilles sèches. L'une est un silex, la seconde soit une pyrite ou pierre de feu, un sulfure naturel de fer ou de cuivre, soit une marcassite, autre sulfure naturel de fer. Dans le cas de la technique par friction, il y a plusieurs possibilités. Deux morceaux de bois frottés l'un contre l'autre, un morceau de bois frotté entre les mains sur une planchette, un archet dont la corde est enroulée à un bâton. Il convient de choisir de préférence des bois tendres afin de produire de la sciure qui s'enflamme sous l'effet de la chaleur produite par le mouvement de friction. Le feu, outre la chaleur apportée, la cuisson des aliments permet de chauffer les silex, ainsi plus facile à tailler pour en faire des pointes de lance, de flèches ou des armes de poing. Durcis au feu de bois, les épieux sont plus résistants, pénètrent mieux les organes vitaux des animaux chassés. La roue. La roue a tout simplement révolutionné les moyens de transport, de locomotion et le système de communication. Les plus anciens témoignages la concernant sont mis au jour en Mésopotamie et datent sans doute des alentours de 3500 avant Jésus-Christ. Les premiers exemplaires sont faits d'un seul bloc pour évoluer vers 3000 avant Jésus-Christ, vers des roues pleines mais constituées de trois pièces assemblées entre elles. Le deuxième millénaire connaît l'innovation de la roue à rayons. La roue semble apparaître simultanément vers le 1er siècle avant Jésus-Christ en différents lieux, mais principalement en Chine, notamment en ce qui concerne la roue à eau, un autre développement répondant à des besoins économiques spécifiques. Il faut cependant attendre le Moyen Âge pour assister à l'évolution du moulin à eau. Même si les Romains en utilisent déjà un, son mécanisme est bien différent. Mais pour inventer la roue, il convient au préalable de maîtriser certaines techniques. Ainsi, les premiers modèles devaient s'user très vite. Le bois s'abîmait rapidement. Ce problème est résolu avec la maîtrise de la métallurgie, quand le fer cerclant la roue la rend résistante aux chocs et chaos des routes, quand le cuivre plus malléable offre à l'essieu de la roue un palier qui évite qu'elle ne prenne feu par échauffement. Car il ne suffit pas de concepteurs maniant avec habileté le compas ou dominant les problèmes de géométrie. La roue nécessite la plus humble collaboration des artisans à l'œil sûr, capables de transformer une invention en innovation applicable. Outre les chars, les moyens de transport, la roue révèle son utilité primordiale comme roue à eau, tour de potier, puis pour les engrenages et transmissions de divers mécanismes, de la machine d'anticitaire présentée ci-après aux montres modernes. La machine à calculer. L'Antiquité connaît le boulier, la table à calculer, la bacque, mais leur usage limite les opérations. La pascaline en 1642, la machine à calculer de Blaise Pascal, est la première machine à calculer mécanique construite à plusieurs exemplaires. Afin de faciliter le travail de calcul de son père, receveur des impôts, Blaise Pascal met cette machine au point. À la technique des engrenages déjà connue, il ajoute un cliquet qui permet ainsi de reporter automatiquement les retenues des opérations. Son utilisation est néanmoins extrêmement limitée. Des additions, des soustractions sont réalisées, les sommes se voient par des fentes au-dessus des 6 roues. Mais pour les multiplications par addition successives ou les divisions par soustraction successives, il faut attendre Leibniz. Aujourd'hui, il ne subsiste que 9 exemplaires de cette machine fort pratique à l'époque. C'est malheureusement son coût élevé de 400 livres qui est la raison de son échec. Gottfried Wilhelm von Leibniz en met une autre au point en 1673, plus souple d'utilisation et fondée sur le mouvement de petits cylindres dentés. Toutefois, ses inventions dépassent à peine le cadre du monde des mathématiciens et chercheurs, faute d'utilité pratique. L'État pourrait en tirer grand profit pour une comptabilité plus exacte, mais préfère recourir aux capacités de ses employés, tout comme le commerce ou la banque. Il faut attendre la première industrialisation, à partir de la fin du XVIIIe siècle, son expansion au siècle suivant, pour que les machines à calculer présentent un intérêt commercial. Le Britannique Charles Babbage va plus loin encore et conçoit les plans de plusieurs machines, souvent présentées comme les lointaines ancêtres des ordinateurs. Toutefois, elles n'intègrent pas de programme et s'avèrent un peu difficiles à transporter. L'une d'entre elles, réalisée d'après les plans originaux, est large de 3 mètres, haute de 2 mètres pour environ 5 tonnes. Et dire que la machine d'Anticythère, du nom de l'île grecque au large de laquelle elle est découverte en 1900, c'est une calculatrice mécanique datée du 1er siècle avant notre ère, que son mécanisme à engrenage permet déjà de calculer la position de certains astres tels le Soleil et la Lune et d'en prédire les éclipses. Reconstituée et visible au Musée national archéologique d'Athènes, son mécanisme prend la place d'une grosse horloge d'officier. 16 cm de large, 21 cm de haut, 5 cm de profondeur. C'est la première calculatrice à emporter, en somme. La machine à vapeur. La machine à vapeur a une petite histoire bien avant qu'en 1775, James Watt, mécanicien écossais associé à l'entrepreneur Matthew Boulton, ne la fabrique. Déjà, l'alexandrin Héron, au 1er siècle après Jésus-Christ, conçoit une petite machine où la vapeur fait tourner une sphère, l'éolipile. Puis, en 1601, Giambattista della Porta décrit un appareil pour élever l'eau en remplissant un tube vertical de vapeur condensée et en forçant ensuite l'eau par la pression à sortir par l'extrémité supérieure. Vers 1690, Denis Papin invente une machine ayant un piston qui sépare la vapeur de l'eau dans le cylindre. Il s'agit d'un piston de quelques centimètres de diamètre. L'eau chauffée produit de la vapeur capable de soulever environ 60 kg. Mais Denis Papin est un inventeur à multiples facettes. Il est surtout connu pour cette première machine à vapeur à piston. Il est en outre le créateur du digesteur, un ancêtre de la cocotte minute destiné, comme son nom l'indique, à amollir viande, nerfs et os afin de les rendre digestes. Il réalise les plans et les essais d'un sous-marin baptisé l'Urinator, qui est un tonneau ovale dans lequel l'air frais est fourni par une pompe à air. En dépit ou à cause de son inventivité qui tourne parfois à la catastrophe, il meurt à Londres dans la misère et l'anonymat. Thomas Newcomen et John Colley prennent un brevet en 1705 pour la première machine à vapeur digne de ce nom. Elle consiste en un cylindre contenant un piston refoulé de haut en bas par la pression atmosphérique lorsque la condensation élève la vapeur en dessus. Elle est destinée à l'exor, c'est-à-dire chasser l'eau qui envahit les galeries des mines, sur le modèle de celle de Thomas Savery en 1698, baptisée l'ami du mineur. James Watt lui fait faire un progrès considérable et décisif. Il amène un jet d'eau froide sur la surface de condensation et remplace au-dessus du piston la pression atmosphérique par de la vapeur. L'air de la vapeur ouvre la voie à la première industrialisation. Le vaccin contre la variole. La variole sème la terreur partout dans le monde. Elle est redoutée car mortelle dans un cas sur trois. Pour les survivants désormais immunisés, la vie devient un enfer. Les pustules qui recouvrent le corps se multiplient sur le visage, laissent place à des trous, béances, où l'eau s'est parfois à nu, faute de cicatrisation véritable. L'étale pendant sa période d'incubation, d'environ 2 semaines, l'horrible épidémie laisse des survivants défigurés. En 1798, le médecin anglais Edward Jenner publie les résultats de son expérience du 14 mai 1796, au cours de laquelle il pratique la première vaccination officielle sur un jeune garçon de 8 ans. Edward Jenner avait remarqué que les vachers qui contractaient souvent le cowpox, une maladie courante de la vache, résistaient aux épidémies de variole. Après de nombreuses expériences, il prouve que le pus de la vaccine de vaca, la vache, introduit par scarification dans l'organisme humain, le protège effectivement, car la vaccine est une forme atténuée de la variole. La fin du XVIIIe siècle voit ainsi se dessiner l'espoir d'une prévention contre la variole. La variole était connue en Chine au 1er siècle avant notre ère et est introduite en Europe à la suite de l'épidémie de la Mecque en 572. La découverte de Jenner s'accompagne partout de la création de comités de vaccines. Mais l'affaire est loin d'être gagnée. En Russie, c'est l'impératrice Catherine II qui doit donner l'exemple. Elle se fait vacciner en octobre 1764 contre la variole. Aussitôt, la cour prend le deuil, les cloches des églises sont déposées. Heureusement, la vaccination est un succès. En revanche, le roi de France Louis XV est victime de la maladie. Une atteinte précédente d'un mal présentant des symptômes identiques fait croire à ses médecins que le souverain a déjà réchappé à la maladie. Il meurt bel et bien de la variole le 10 mai 1774 à Versailles. Grâce à ce premier pas fondamental, Louis Pasteur l'étendra à l'ensemble des immunisations artificielles contre les agents infectieux. Le paratonnerre. La foudre, un phénomène électrique naturel, est un arc reliant deux points dont le potentiel électrique diffère. Les hommes remarquent vite sa propension à frapper le quidam isolé, en promenade dans la campagne un jour d'orage. Malchance ou malédiction, il faut attendre le XVIIIe siècle pour qu'un moyen simple et efficace de s'en prémunir, tout au moins pour les bâtiments, voit le jour, le paratonnerre. Son concepteur, Benjamin Franklin, s'illustre dans différents domaines. À la fois homme politique, diplomate, fondateur des premières bibliothèques publiques, imprimeur, journaliste et scientifique. Dans ce dernier domaine, son nom est attaché à l'invention du paratonnerre. En 1747, il est le premier à définir l'existence des charges positives et charges négatives, un fondement de la physique. Il comprend ainsi que l'électricité se propage comme un fluide et bâtit la notion de courant électrique. Afin de convaincre ses confrères scientifiques de la Royal Society, Benjamin Franklin réalise la célèbre et très risquée expérience dite depuis du cerf-volant de Franklin, fortement déconseillée à reproduire car le risque est mortel. Au cours d'un violent orage, Franklin fait évoluer un cerf-volant auquel est attachée une clé métallique. La foudre le frappe. Benjamin Franklin n'était certainement pas au bout de la ficelle du cerf-volant, contrairement à l'imagerie populaire, car il aurait été foudroyé. Partant du constat que celle-ci pouvait être attirée par d'autres matières, dont l'eau et les métaux, il place en 1752 une pointe de fer sur un édifice élevé, relié à un fil descendant jusqu'au sol. Il s'agit de sa propre maison, de l'Académie de Philadelphie et de la Pennsylvania State House, ou Independence Hall. Le paratonnerre est né. La radioactivité. La radioactivité est un phénomène naturel répandu partout sur Terre. Notre corps lui-même dégage une faible radioactivité. Le phénomène correspond à un noyau atomique formé de protons et de neutrons qui se transmute en un autre noyau en émettant au passage des particules. Nous sommes tous quotidiennement soumis à la radioactivité, qu'elle provienne du cosmos, de l'écorce terrestre, de l'air inhalé ou des aliments et boissons ingérés. Pour avoir une idée plus précise, songeons que la radiographie des mâchoires inférieures et supérieures, connue sous le nom de panoramique dentaire, équivaut environ à une journée d'irradiation naturelle. Présente partout, la radioactivité demandait à être isolée, décrite, expliquée scientifiquement et enfin exploitée. La découverte de la radioactivité est associée au nom des Curie, Pierre Curie et sa femme Marie Curie, née Sklodowska, qui obtient en 1911 le prix Nobel de chimie. C'est elle qui, en découvrant le radium, donne naissance au terme de radioactivité, propriété que possèdent certains éléments de se modifier en émettant de l'énergie, phénomène déjà découvert avec l'uranium par Henri Becquerel. Deux ans plus tard, les Curie annoncent la découverte d'un nouvel élément, le polonium, puis, en décembre 1898, l'existence du radium. Leur découverte apporte d'immenses moyens d'étude sur la constitution de l'atome et du noyau atomique et est appliquée en thérapeutique, en biologie, en chimie, avec des conséquences dont les bornes ne sont actuellement toujours pas atteintes. Plusieurs unités sont utilisées afin de mesurer la radioactivité. le becquerel pour les activités très faibles de désintégration, le gray mesure l'énergie d'un rayonnement ionisant absorbé par la matière, le joule rend compte du travail produit par une force en déplacement, le curie qui vaut 37 milliards de becquerels. L'automobile. L'automobile au sens premier, qui se meut par soi-même, c'est le rêve de ne plus dépendre de la force animale ou humaine pour faire se mouvoir un véhicule. Le problème hante les grands esprits de la Renaissance, mais il faut attendre le fardier de Joseph Cugnot pour le premier essai en 1771. Peu concluant d'ailleurs car le vaste engin long de 7 mètres requiert une énorme chaudière à vapeur et s'avère impossible à manœuvrer. Un siècle passe et c'est au tour d'Amédée Bollée, père et fils, de reprendre le flambeau. L'obéissante, la première voiture à vapeur, transporte jusqu'à 12 personnes. Elle effectue Paris-Le Mans en 1875 au prix de 76 contraventions et en 18 heures. Si l'obéissante ressemble plutôt à un petit omnibus, la Mancelle qui lui succède en 1878 en qualité de voiture véritable, dotée de 4 roues indépendantes, dépasse les 40 km à l'heure de la première. Vient ensuite l'appétit d'autonomie et de folle vitesse avec le moteur à gaz à explosion d'Alphonse Beau de Rochas en 1862, le moteur à essence de Gottlieb Daimler en 1887 et le moteur diesel de l'ingénieur allemand Rudolf Diesel. En 1897, l'automobile, la voiture comme tout le monde commence déjà à la nommer, est née. Le reste n'est plus qu'une question de vitesse et d'adaptation à son temps. Le laser. Le mot laser est un acronyme anglais. Un laser est un dispositif permettant une amplification de la lumière par émission stimulée de rayonnement, soit en anglais « light amplification by stimulated emission of radiation ». Laser. La définition courte est la suivante. Dispositif émettant de la lumière très cohérente grâce au processus d'émission induite. En 1917, le principe de l'émission stimulée ou émission induite est décrit par Albert Einstein. Le laser provient d'un prototype qui est le MASER, acronyme de Microwave Amplification by Stimulated Emission of Radiation, qui a été élaboré par les États-Unis au cours de la Seconde Guerre mondiale. Le MASER fonctionnait dans le domaine des micro-ondes. En 1960, le physicien américain Theodore Meinman obtient pour la première fois une émission laser au moyen d'un cristal de rubis. En 1961, Ali Javan met au point un laser au gaz. Entre 1958 et 1964, de nombreux scientifiques tels que Alexandre Mikhailovich Prokhorov, Nikolai Bazov et Charles Townes, qui se partagent le prix Nobel de physique en 1964, contribuent à adapter ces théories aux longueurs d'onde du visible. En 1966, Peter Sorokin construit le premier laser à colorant liquide qui émet des impulsions de lumière de couleur. Le principe physique du laser repose sur trois phénomènes physiques d'interaction d'un atome avec la lumière. Le premier principe est l'absorption. Un atome qui reçoit un photon de longueur d'onde adéquate peut l'absorber. Il est alors dans un état excité. Le second principe est l'émission spontanée. L'atome excité peut revenir dans son état initial appelé état fondamental en laissant partir un photon de même longueur d'onde que celui qu'il avait absorbé pour passer dans l'état excité. Le troisième principe est l'émission stimulée. Lorsqu'un atome excité reçoit un photon, celui-ci peut stimuler la désexcitation de l'atome. L'atome émet alors un deuxième photon. Le laser provient de l'excitation d'un composé gaz ou cristal entre deux miroirs dont on laisse passer une petite partie de la lumière. Ce composé libère des photons, des particules de lumière en quantité énorme, dont certains traversent le second miroir pour générer un faisceau lumineux. Dès 1967, les lasers trouvent des débouchés industriels. La première application consistait à usiner un perçage d'enduit diamant avec un laser à rubis. Cette opération était réalisée en 15 minutes au lieu de 24 heures auparavant. Le laser produit un rayonnement très puissant qui a de multiples usages. Découpe industrielle, ciblage en astronomie, géographie et technique militaire, opération de la cornée, blanchiment des dents, restauration de statues, etc. Il sert aussi à lire les codes-barres et possède bien d'autres utilisations. Le séquençage du génome humain. Le génome est notre carte d'identité complète, mais une carte d'identité un peu particulière qui correspondrait à une encyclopédie en 20 volumes au moins. Il contient l'ensemble des informations héréditaires d'un individu. Son support matériel est l'ADN, ou acide désoxyribonucléique. Le génome est composé de molécules d'ADN géantes combinées à des protéines. L'ensemble forme un chromosome. Tous les êtres humains ont le même génome, la même bibliothèque d'informations, avec une variante infime de 0,1% d'un individu à un autre. Les instructions codées dans le génome sont les gènes le long des molécules d'ADN. Celles-ci sont faites d'une succession d'éléments appelés nucléotides qui comprennent une partie variable sous quatre formes symbolisées par les lettres A, T, G, C. Chaque séquence d'ADN présente une succession de ces quatre lettres selon des formes différentes. TGGTCCA ou CTGCCTA, etc. Si les séquences sont les mêmes, l'information est identique. Sinon, chaque séquence véhicule une information différente. Le séquençage du génome humain, c'est-à-dire des 3 milliards de données qu'il renferme pour former notre carte d'identité complète, est entrepris au milieu des années 80 et achevé 20 ans plus tard. L'utilité de l'opération est de permettre dans le futur de considérables avancées de la recherche biologique et médicale.